Matthieu chapitre 21 verset 28, vous savez qu'on est dans cette étude sur cette parole de la prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ton royaume vienne sur la terre. Et l'histoire nous montre que quand les hommes essayent de mettre en pratique cette parole de manière humaine, ça court à la catastrophe. Étudiez l'histoire des religions, étudiez le christianisme et le moment où le christianisme a voulu mélanger la foi avec la politique, en voulant instaurer le règne de Dieu sur la terre de manière politique, et ça a fait toutes sortes de choses mauvaises. Étudiez l'origine de l'islam, et vous verrez que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voulait instaurer le règne de Dieu de manière politique, humaine et guerrière. Et ça conduit à toutes sortes d'extrémismes qu'on connaît malheureusement aujourd'hui. Mais le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'autre. Le règne qui veut venir, c'est le règne dans notre cœur, le règne dans notre vie que Dieu veut installer. Et comme dans tout royaume, il y a des lois. Là, il y a 2 semaines en arrière, on a vu les lois particulières, la loi de la transmission. Si on n'est pas connecté en communion avec le Saint-Esprit, alors on ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si on n'avance pas par le Saint-Esprit, on recule aussi. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Il n'y a pas de personne qui reste immobile. Soit on avance, soit on recule. On a vu que quand on marche par l'Esprit, alors il y a une transformation, il y a un changement, ça se voit quand on marche par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va voir deux lois toutes simples. Sûrement que vous les connaissez déjà, mais combien c'est bon de les repasser dans notre cœur. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut appuyer ce matin cette parole, parce que au travers des chants, Pierre, il n'avait aucune idée, à moins qu'il soit venu hier sans que je sois au courant, voir mes notes, mais il n'avait aucune idée de ce que j'allais prêcher, et pourtant, quasiment tous les chants, ils parlent de ce thème-là. La première loi, c'est la loi du oui. Dieu nous donne une mission, et que notre oui soit l'action. Et la deuxième loi, qui nous intéresse particulièrement, c'est que sans l'appui de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que nous. Ça veut dire qu'on a besoin de s'appuyer, de recevoir la force du Seigneur. Et c'est ce qu'on a chanté ce matin dans tous les chants. Repassez-les, demandez à Pierre la liste, regardez les paroles et vous allez voir que c'est ce message que Dieu veut imprimer dans chacune de nos vies de manière particulière. On va commencer avec la première loi quand même, dans Matthieu chapitre 21 donc, et le verset 28. Il y a cette parabole qui est là, qui illustre encore une fois comment fonctionne le royaume de Dieu. « Que vous ensemble ?» Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il s'en alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. » Une parabole toute simple qui illustre le royaume de Dieu, qui illustre cette vérité qu'on pourrait dire autrement, que nos actes parlent beaucoup plus que nos paroles. On peut dire de toutes sortes de belles paroles par notre bouche, mais le plus beau langage que l'on peut exprimer aux gens qui nous entourent, ce sont nos actes, ce sont nos vies. Et ce que nous disons le dimanche matin, c'est bien, c'est une chose, mais ce que nous faisons le reste de la semaine, c'est ça le vrai témoignage que nous disons autour de nous. Et combien c'est important de réaliser cela. Nous voyons dans cette histoire déjà qu'il y a un Père, il y a un Dieu. Le Père représente Dieu qui est là, qui donne une mission à l'humanité, qui donne une mission à ses enfants. Dieu veut établir une relation avec les êtres humains, une relation de Père à enfant. Et combien c'est bon quand on a compris que Dieu veut pas être un père fouettard, mais il est un père plein de compassion, plein d'amour, qui veut nous diriger, qui veut nous conseiller quand on ne sait pas quel chemin prendre. Il est le Dieu qui veut nous entourer de ses tendresses. Et peut-être que vous avez eu un père qui n'était pas un père comme Dieu, mais laissez-moi vous dire que le Père Céleste, c'est un père rempli d'amour envers vous et qui vous veut tellement et tellement et tellement de bien. Je crois que si Dieu permettait que le ciel s'ouvre et qu'on voit son cœur rempli d'amour, c'est possible par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle cela. Mais si on avait la possibilité de voir combien Dieu nous aimait de manière physique, Alors tout le monde courrait dans sa présence et dirait « Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ta volonté. » Parce qu'on voit qu'il y a un Père, mais on voit aussi qu'il y a la volonté du Père. La question que pose Jésus, elle est claire. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père ? Il y a une volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est la prière du Notre Père, c'est ça qu'il est dit, que ta volonté soit faite. Il y a une volonté, mais quelle est la volonté de Dieu ? Comment savoir la volonté de Dieu ? Je ne sais que je me répète souvent, mais c'est tellement simple. La volonté de Dieu, elle est là. C'est sa parole qui nous donne de savoir quelles sont les directives du Seigneur, qui nous donne de savoir comment est-ce que nous pouvons nous y prendre pour plaire à notre Dieu, pour travailler dans sa vigne. La vigne, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de ce que Dieu fait, cet endroit où Dieu fait porter du fruit, et le Seigneur veut faire au travers de chacune de nos vies, parce que l'Église, c'est les personnes, au travers de chacune de nos vies, Dieu veut que nous portions du fruit. Est-ce que le cep de vigne et le fruit de la vigne, c'est la vigne qui le mange? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça que ça marche? Non. Quand le cep produit du fruit, c'est pour quelqu'un d'autre. Quand nous produisons du fruit, c'est pour les autres. C'est pas pour nous. Nous, en tant que branche rattachée au cep, notre rôle, c'est de porter du fruit. Et souvent, nous, on veut se contenter de manger tous les fruits que Dieu veut nous faire porter. Non. Dieu nous invite à être de ceux qui produisent du fruit pour les autres. Et peut-être un commandement qui résume un petit peu toute la pensée de la volonté de Dieu. Il y en a beaucoup dans la parole, mais il y en a un qui est peut-être central, c'est ce commandement qui dit « Haïssez le mal et aimez le bien ». Ce qui est mal, il faut dire non, et ce qui est bien, il faut dire oui. C'est pas compliqué comme commandement. Et ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a la mission, il y a le Père qui est là, mais il y a une position à prendre, il y a une décision à prendre. On doit se déterminer, on ne peut pas rester entre deux. On est obligé de dire soit oui, soit non face à la mission que Dieu nous donne. Il y a l'indécision qui est quelque chose de très dangereux. On se retrouve aujourd'hui avec des personnes, des fois, qui ne sont pas capables de dire oui ou de dire non. Mais le problème de ça, c'est que si on ne dit pas oui ou si on ne dit pas non, ben c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision pour nous. Il y a l'histoire du président Ronald Reagan quand il était enfant. Une tante l'avait amené à un cordonnier pour qu'il fasse une paire de chaussures neuves. Et le cordonnier, il commence à parler avec ce jeune garçon qui allait devenir plus tard président. « Tu veux que les chaussures, est-ce qu'ils aient le bout carré ou le bout rond ?» Alors le garçon, il était là, il s'était jamais posé cette question existentielle. Donc il n'a pas répondu. Donc le cordonnier l'insistait, il voulait savoir comment il allait travailler. Et le garçon, il était totalement indécis. Donc il lui a dit, ben, tu vas réfléchir plusieurs jours, et puis dans quelques jours, tu reviens me voir, et tu me donneras ta réponse. Alors plusieurs jours plus tard, quand Reagan est revenu voir le cordonnier, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as décidé? Tu veux des chaussures rondes ou des chaussures avec le bout carré? Et il était toujours là, indécis, toujours là, sans savoir ce qu'il devait répondre. Alors le cordonnier dit, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Reviens dans 2 jours et je te donnerai tes chaussures. Il revient dans 2 jours, ce jeune garçon, et quand il voit les chaussures, il voit qu'il y a une chaussure avec le bout carré et une chaussure avec le bout rond. Et le monsieur lui dit, cela t'apprendra à ne jamais laisser les gens prendre les décisions pour toi. Et cet homme, il a dit, après, avec l'expérience, puisqu'il est devenu président des États-Unis, il dit, j'ai appris ce jour-là, que si vous ne prenez pas vos propres décisions, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et c'est une vérité. Si on ne se détermine pas pour Dieu, si on ne répond pas de manière réelle à la mission que Dieu nous donne, si on ne dit pas oui, le monde va nous donner une réponse à notre place. L'ennemi va donner une réponse à notre place. Dieu ne va jamais nous forcer, parce que Dieu est un Dieu qui propose. Mais le diable, laissez-moi vous dire qu'il est une personne réelle, spirituelle, qui veut nous amener en arrière. Voilà pourquoi il faut dire oui à Dieu. Imaginez que vous prenez l'avion. Il y en a qui ont pris l'avion déjà? Combien ont pris l'avion? Quelques-uns, mais pas tant que ça, finalement. Combien ont peur de l'avion aussi? On a le droit, hein? Il y en a quelques-uns. Imaginez que vous devez prendre l'avion, vous n'êtes pas trop rassuré, puis vous arrivez à l'aéroport, on vous dit, voilà, ce monsieur-là que vous voyez devant, c'est le commandant de bord. Alors pour vous rassurer, vous allez le voir et vous discutez un petit peu avec lui, vous essayez de savoir combien ça fait temps qu'il vole, combien il a d'heures d'expérience. Vous arrivez devant lui, alors monsieur le commandant de bord, c'est vous qui allez conduire. Ça fait combien de temps que vous faites ce travail? Oh, je sais pas trop. Mais vous êtes sûr de bien savoir conduire cet avion? Oh, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça va vous rassurer? Quelqu'un qui est un commandant de bord totalement indécis. Et au moment où s'il y a un accident ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir bien réagir? Je sais pas trop. Vous voyez comment l'indécision est quelque chose de dangereux. C'est dangereux quand on le voit chez les autres, qui ont une responsabilité, mais nous sommes responsables de nos propres vies, et c'est dangereux pour nous en tout premier que de ne pas savoir dire oui ou dire non. Il y a un jeune homme qui avait dit oui à la foi, et qui avait dit non à certaines choses, à la concentration par rapport à la parole. Et on peut venir à l'église, dire oui, je viens à l'église, je veux entendre la parole de Dieu, mais pas être concentré dans ce que l'on entend. Cet homme, il s'était assis au bord de la fenêtre. C'est comme si quelqu'un se mettait sur le seuil de la porte. C'est-à-dire qu'il regarde à la fois ce qui se passe dans la rue et à la fois ce qui se passe dans l'église. Mais le résultat, c'est que comme il était à moitié, à cheval entre deux choses, il a basculé du mauvais côté. Et il est tombé de plusieurs étages, il est tombé en bas et il était mort. Et vous savez l'histoire que l'apôtre Paul a prié pour lui. Et il y a la grâce de Dieu qui a fait que la vie est revenue dans cet homme. Mais cette image, elle est là pour nous montrer le danger de l'indécision, de se tenir entre deux. Parce qu'à un moment donné, on bascule toujours du mauvais côté. Il faut choisir, il faut dire oui à Dieu, il faut dire « Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux m'engager ». La foi chrétienne, ce n'est pas juste une adhésion sur un papier qu'on donne avec une signature, mais c'est un engagement de toute une vie. Quelqu'un va me dire « Moi, ça fait longtemps que j'ai dit oui à Dieu ». Amen. Il y en a comme ça? Ça fait plus de 30 ans qu'ils connaissent le Seigneur, peut-être? Qui? Quelques-uns. C'est bien. Que le Seigneur vous bénisse. Mais dire oui à Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas seulement dire oui par notre bouche, il faut dire oui par notre vie tout entière. Et c'est la conclusion logique de cette parabole. Dieu nous donne une mission, mais que notre oui soit l'action. C'est pas juste des paroles. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux faire ta volonté. Le jour où le pasteur il baptise la personne, il lui pose des questions. Est-ce que tu veux suivre le Seigneur de tout ton cœur? Ça fait pas trop bien, bon effet si la personne dit non à ce moment-là, hein. On est d'accord. Donc normalement, elle dit oui. D'ailleurs, on vérifie avant que c'est bien ce qu'elle veut, hein. On l'oblige pas à se passer par les eaux du baptême. Mais la personne dit oui. Mais après, c'est sa vie qui va démontrer si son oui, il est réel. Si son oui, il est effectif. Dans cette parabole, on voit qu'il y a un homme qui est là, que Dieu lui dit, enfin le père dit à son fils, « Va dans ma vigne !» Et l'autre lui dit, « Non, j'ai pas envie, j'y vais pas !» Et puis après, il y a un processus qui commence à se faire dans son cœur, il réfléchit. C'est la volonté de Dieu, mais il s'est trompé. Alors il va se repentir, il va se remettre en question. Et il va dire au Seigneur, oui, j'y vais. Peut-être qu'il n'a pas dit dans sa bouche, mais au moins il est parti. Il a fait ce qu'il fallait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a accompli la volonté de son Père. Ses actes ont montré qu'il s'était qu'il avait été dans l'approbation de Dieu. Et il y en a un autre, c'est l'inverse. Oui, Seigneur, je vais faire tout ce que tu vas me dire. Oui, je vais te servir dans les moindres détails. Tellement ce message est merveilleux que tu me demandes à travailler la vigne, c'est super. J'ai toute la théorie. Et puis il y va pas. Alors c'est quelque chose qui est interpellant, hein, parce que c'est pas au nombre de nos belles paroles que Dieu va nous juger, mais c'est nos œuvres. La grâce de Dieu fait que le salut n'est pas par les œuvres, mais le salut est suivi des œuvres. Les œuvres que nous faisons démontrent à quel point la foi que nous avons, elle est réelle dans le Seigneur. Aujourd'hui, on est dans un monde virtuel. Vous voyez que les gens sont de plus en plus connectés et les jeunes sont de plus en plus addicts de leur téléphone portable ou de leur tablette ou de toutes sortes de choses. On est dans un monde virtuel avec toutes sortes de réseaux sociaux qui sont là, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et toute une liste. Et vous avez remarqué que c'est avec des mots qu'on essaye de capturer nos vies. Et on pense que ça suffit. Des fois, on voit des gens sur leur compte, ils mettent « Ma vie est totalement gâchée !» Alors, on imagine, je ne sais pas moi, qui a eu quelque chose de grave, un accident ou quelque chose comme ça. Et puis, on s'aperçoit « J'ai perdu mon téléphone portable. » Vous voyez, avec quelques mots, on a l'impression de décrire notre vie, mais on est à côté de la plaque. Les mots ne sont pas suffisants. Et ne nous laissons pas piéger par les mots. Ne nous laissons pas piéger par les mots. Mais que nos mots soient en accord avec nos actes, que nos actes soient en accord avec nos mots aussi. Combien c'est important. On a tellement vu de gens justement jouer le chrétien, faire des choses pour Dieu, mais le faire pour des mauvais motifs. Les pharisiens à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient beaucoup de choses pour Dieu, mais ils le faisaient pour de mauvais motifs. Et le résultat, c'est que c'était des choses qui plaisaient pas à Dieu. Et souvent, on a les gens qui font le contre-pied de ça. Ils disent, oh, j'ai tellement vu de gens qui se donnaient à fond pour Dieu, mais pour de mauvaises raisons. Alors moi, je vais être cool avec Dieu. Je vais être un peu tranquille. Pas aller trop loin, parce que je veux pas être hypocrite. Oui, mais que ton oui soit oui. Que ce que tu dis, tu le fasses. Que quand tu dis oui au Seigneur, tu te positionnes et tu agisses dans l'obéissance à ton Seigneur. Et si tu lui as dit non un jour, il y a besoin que tu te repentes. Cet homme qui a dit non, je vais pas le faire, non, je veux pas aller dans la vigne. Quand le Saint-Esprit a parlé à son cœur, il s'est repenti. Se repentir, ça veut dire changer de voie, faire demi-tour, tourner le dos au chemin dans lequel on était avant et aller sur le chemin avec le Seigneur. Celui qui dit oui avec sa bouche et qui dit non avec ses actes, il est en danger. Parce que ce que nous ne faisons pas démontre l'amour que nous n'avons pas pour le Seigneur. Parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir. Ça arrive, hein, quand on prêche la parole. Il y a des personnes qui viennent nous voir à la fin et qui disent « Ah, oh, pasteur, à chaque fois que vous prêchez, c'est merveilleux. Le Seigneur me parle. Non, oh, c'est merveilleux. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. » Et il rajoute des couches de flatterie et tout ça. Mais vous savez, moi, j'ai appris une chose, c'est pas à me fier du tout à ces personnes. Alors, je suis content hein, quand on m'encourage. Je vais pas tourner le dos à la personne. Mais j'ai appris, avec la grâce de Dieu, à pas me fier à ces choses-là. Parce que souvent, je suis triste après dans mon cœur quand je vois de telles personnes qui refusent de changer. Il y a des points très précis et ils refusent, ils rejettent l'enseignement du Seigneur. Des belles paroles, mais qui après ne se traduisent pas dans les actes. Je suis tellement plus béni et heureux de voir des personnes qui sont discrètes, qui viennent pas forcément voir à la fin, mais qui prennent la parole avec sérieux, qui disent « ça, cette parole, elle est pour moi, je veux l'appliquer », et qui, jour après jour, pas après pas, ils font des progrès avec Dieu. Des petits changements, ça paraît imperceptible, mais quand on les voit semaine après semaine, on se rend compte qu'il y a des progrès qui se font dans leur vie. Ça, c'est quelque chose qui me réjouit, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et c'est ce pourquoi je veux travailler de plus en plus, pour annoncer cette bonne parole. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et le Seigneur veut que cette parole, nous puissions la mettre en pratique. Un jour, alors qu'il était en train d'enseigner, alors qu'il était en train de prêcher, il y a quelqu'un qui vient lui taper sur la main en lui disant « Ton frère, ta sœur et ta maman te cherchent, ils veulent te parler. » Alors vous savez ce qu'a répondu Jésus ? Il leur a dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Le plus important pour Jésus, c'est la personne qui veut mettre en pratique. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous voyez que toutes les fois où il est question de la volonté de Dieu, il est question de faire, pas juste de connaître, faire la volonté de Dieu. Quand on prie que ta volonté soit faite, ça veut dire « Seigneur, par ma vie que ta volonté soit faite ». C'est pas de manière un petit peu mystique, Dieu qui tout seul de son ciel, il gère les choses. Non, c'est moi. Comment est-ce que dans ma vie, la volonté de Dieu peut se faire? Jésus a dit cette parole. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça veut dire ceux qui chantent, ceux qui prient à haute voix. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire, attention. Hein. Mais il nous met bien en garde. C'est pas suffisant juste de faire ça. Il faut que notre vie tout entière, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui fait la volonté. La volonté de Dieu, elle n'est pas faite juste pour être approuvée dans notre esprit, mais elle est faite pour être appliquée, pour être pratiquée. Comme un gâteau au chocolat. Moi, j'aime bien les gâteaux au chocolat. Vous me pardonnez ? Oui ? Bon. C'est pas un péché, hein. Mais j'aime bien les gâteaux au chocolat. Mais c'est une chose que de faire un beau gâteau au chocolat, qu'il ait une belle apparence, du sucre au-dessus et tout ce que vous voulez, du glaçage. C'est une chose de le voir et de l'apprécier visuellement, c'est une autre chose de le manger. Et la volonté de Dieu, c'est pareil. On peut passer notre vie à retrouver combien Ah, la volonté de Dieu, c'est bon, c'est quelque chose. Quand on voit des livres d'histoire, des livres d'hommes qui sont là, qui parlent que de guerre, qui parlent de violence, mais la volonté de Dieu, quand on la lit, on voit que Dieu nous appelle à aimer notre prochain. Dieu nous appelle à être de ceux qui procurent la paix. C'est bon tout ça. Oui, mais il faut le faire. On peut adhérer à la philosophie morale de la parole et trouver ça génial, mais c'est pas ça qui va nous amener dans le royaume de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est Jésus qui parle. Je veux dire, si c'était seulement moi qui vous disais ça, qui vous pourrais encourager, vous pourriez avoir des doutes, mais là, c'est le Seigneur par sa parole qui est précis. Il a dit à un moment donné, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous en sommes à ce niveau-là où ce qui nourrit, ce qui nous donne des forces, c'est de faire la volonté de Dieu? Souvent, nous, on attend d'avoir des forces pour faire. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire avec le Seigneur. C'est d'accomplir, d'obéir, c'est de pratiquer ce qu'il nous demande. Et le Seigneur va pourvoir, le Seigneur va nous donner la force. Alors oui, Seigneur, je veux te dire oui et je veux obéir à ce que tu me demandes. On va dans Luc maintenant au chapitre 14 pour voir cette deuxième loi. Luc au chapitre 14 et verset 31, on voit que c'est la suite logique d'ailleurs. Encore une parabole que le Seigneur donne pour illustrer ce royaume de Dieu. Luc 14, verset 31. « Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. » Ici, nous voyons ce que j'ai appelé la loi de l'appui. Sans l'appui du roi des rois, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que soi. C'est une loi toute simple. Ça veut dire qu'on trouvera forcément sur cette terre quelqu'un ou quelque chose qui va être plus fort que nous si on ne s'appuie pas sur le Seigneur. Si on s'appuie sur le Seigneur, alors il n'y a pas de problème. Mais si on ne s'appuie pas sur le Seigneur, on trouvera à un moment donné, on peut avoir des moments où on est fort, des moments où tout va bien, mais à un moment donné, on va trouver quelqu'un de plus fort que nous. Et cette loi, elle nous renvoie à trois vérités toutes simples aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir aux forces qui sont en présence. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est plus fort ou quelque chose, et à un moment donné, il faut réaliser qu'on a besoin de l'appui de Dieu. Pour ceux qui aiment la science, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, ça va vous rappeler des souvenirs, mais imaginez qu'un déménageur soit là, qui soit devant une pente avec un gros piano à déménager. Et on a souvent des exercices de physique qui sont là pour savoir quelle force doit amener le déménageur pour pousser le piano de telle sorte qu'il puisse monter. Alors il faut que réfléchir, il y a le poids du piano, donc la pesanteur qui est là, qui exerce une force sur le piano. Si on fait un bilan des forces, alors je le fais rapidement parce que je ne veux pas vous embêter avec la science, mais il y a le poids donc du piano, il y a la réaction du sol qui va faire en sorte que le sol ne s'effondre pas sous le piano, qu'il est assez dur. Il y a la résistance des roues. Parce que si le piano est sur roue et qu'on le pousse, il y a une certaine résistance. Il y a peut-être du vent qui est là, qui souffle dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut en tenir compte de tout ça. Et tout ça, ça va nous amener à déterminer quelle force le déménageur doit manifester pour que le piano monte. Ça va jusque-là? Si vous me dites non, je vous fais un schéma et tout. Alors dites-moi oui. Bon, je vois que vous aimez pas la science. Mais tout ça pour dire quoi? Ce que on faisait peut-être en science à l'école, parfois on a besoin de le faire de manière spirituelle. C'est pas une question de mathématiques et de physique et tout ça, c'est une question d'intelligence spirituelle et de discernement du Saint-Esprit. Savoir quelles sont les forces qui sont présentes dans ma situation. Il y a une force qui est là, qui est évidente, c'est l'ennemi de nos âmes qui veut s'acharner à nous faire du mal. Souvent on dit le malin, oh, il est malin le diable. Mais on le dit avec tellement de mépris et tellement de comment dire, on ne réalise pas la portée de ce que ça veut dire ce mot. Le malin, ça veut dire quelqu'un qui est infiniment engagé à me faire du mal. Quelqu'un qui est infiniment méchant envers moi. Ça c'est une force contraire, on est d'accord. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà les intentions du diable envers nous. C'est pas terrible. Mais on a besoin de réaliser que Dieu est celui qui veut remporter la victoire. David, il a dit à un moment donné dans un psaume, il explique comment Dieu est intervenu en sa faveur. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Si on croit qu'on est chrétien et qu'on est tout puissant, eh ben on se trompe totalement. Le chrétien, c'est la personne qui réalise combien il est faillible, combien il est petit et combien il a besoin d'avoir un Dieu puissant. Combien il a besoin que sa main toute petite soit dans la main du grand Dieu qui est capable de le retirer des grandes eaux. Parce que il y a des adversaires et des ennemis qui sont plus puissants. C'est important de réaliser. Parfois c'est le diable de manière claire, mais parfois c'est simplement les circonstances qui sont contraires. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des circonstances contraires ? Peut-être que vous êtes en plein dans des circonstances contraires aujourd'hui. C'est bon de se rendre compte de notre force à nous. Quelle est ma force ? Peut-être qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas trop, hein. Mais vous savez, c'est pas forcément un problème de dire que j'ai pas beaucoup de force. Paul, il a dit, c'est dans ma faiblesse que la force de Dieu s'accomplit. La grâce de Dieu vient supplanter notre faiblesse et nous amener à surmonter tout ce qui est plus fort que nous. Les émotions. Est-ce que c'est mal, les émotions? Ah, j'entends oui, j'entends non. Ben oui, parce que ça dépend. Les émotions en soi qui jaillissent dans notre cœur, on les commande pas, donc elles sont pas mal en soi, mais c'est après ce que nous en faisons qui détermine si c'est mal ou pas. C'est important d'être à l'écoute de nos émotions, de savoir ce qui se passe dans notre cœur pour savoir si justement par rapport à telle situation, ben, je me sens assez fort ou si je sens que je suis faible, j'ai besoin que un frère ou une sœur vienne prier avec moi, vienne m'encourager, etc. J'ai besoin que le pasteur vienne me visiter. C'est bon de savoir ce qui se passe dans notre cœur, mais c'est important de pas laisser les émotions nous diriger. C'est important de pas laisser les émotions prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Les tentations, est-ce que c'est des forces contraires? Bien sûr. Le diable est là, il essaye de nous appâter avec toutes sortes de stratégies, mais on a bien expliqué que c'était dans le but de nous faire du mal. Parfois, on a l'impression qu'il nous donne de l'élan, il y a les choses qui se passent bien, il nous pousse. Vous savez pourquoi des fois le diable il nous pousse en avant? C'est pour qu'on tombe et qu'on se fasse encore plus mal. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas forcément parce que tout semble aller bien dans nos vies, que tout va vraiment bien. Quand notre cœur, on a la conscience qui est calme et paisible et lavée, alors on discerne si c'est la volonté de Dieu ou pas. Vous savez que même nos forces, nos qualités, vous en avez beaucoup, moi j'en ai pas beaucoup, alors il faut que j'essaie de travailler, mais même nos forces et nos qualités peuvent devenir des faiblesses. Une personne qui dit qu'elle est franche ou directe, c'est bien ? C'est bien ou pas ? D'être franc ou direct ? Ben, il vaut mieux des fois dire les choses que pas les dire du tout. Comme ça, au moins, on est au courant. Mais on peut vite tomber dans le manque de tact et même des fois être cruel. C'est pour ça qu'il faut savoir doser. Une personne qui dit qu'elle est vraiment diplomate peut devenir quelqu'un tellement diplomate qui dit pas les choses aussi, qui est tellement évasif et voire qui trompe les personnes en leur disant pas la vérité. Une personne qui a des convictions fermes, ça peut devenir aussi quelqu'un qui va être raide et cassant pour les autres. Je dis pas que ça se passe toujours, mais nos forces peuvent se transformer en faiblesses si on ne fait pas attention. Une personne qui est tempérée, judicieuse, elle peut parfois se transformer en une personne qui manque justement de conviction. La loyauté, ça peut conduire au fanatisme si c'est poussé à l'extrême. La prudence, un excès de prudence peut amener à la timidité. La liberté, ça peut devenir une excuse pour faire toutes sortes de choses. La confiance peut devenir de l'arrogance. L'humilité peut devenir la servilité, etc., etc. On pourrait prendre toutes les qualités du monde qui peuvent, si on n'y fait pas attention, devenir des faiblesses. Nos forces peuvent devenir des faiblesses. Voilà pourquoi quand on fait un bilan des forces dans nos vies, quand on voit tout ce qui est contraire, on voit que la situation va pas bien, c'est important de réaliser que s'il y a un adversaire qui est plus fort que nous, on a besoin de l'appui de Dieu. C'est ça la loi de l'appui. C'est qu'on a besoin de l'appui de notre Dieu. On a besoin que Dieu vienne nous aider à remporter la victoire, à être plus fort, Et quand la Bible nous parle de surmonter, dans certains versets, il est question de surmonter. Littéralement, ça veut dire être fort au détriment d'un autre. Être supérieur en force. Prévaloir sur quelqu'un d'autre. Et quand la Bible nous dit surmonter, c'est envers l'adversaire, hein. C'est envers ce qui est mal. Et donc le Seigneur est celui qui veut nous aider à remporter la victoire. Être plus fort par le Seigneur Jésus. Et Jésus nous a donné toutes sortes de moyens tellement simples. Un jour, alors que j'étais dans la présence de Dieu, j'ai réfléchi à un verset qui m'a fait penser à toutes sortes d'autres versets. Je fais une recherche sur ces versets qui disaient « Afin que vous ayez la force ». Faites ceci afin que vous ayez la force d'autre chose. Et on se rend compte que le Seigneur Jésus nous donne comme ça une solution pour être fort, pour puiser dans sa présence quelque chose qui va nous amener à dépasser cette adversité, ces vents contraires qui sont là, qui soufflent et qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, dans Deutéronome 11, verset 8, je le lis pour vous. « Vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. » Vous observerez tous les commandements. Ça veut dire vous prendrez soin de connaître, de lire et de pratiquer la parole. Votre oui sera pas seulement en parole, mais sera en acte. Et si vous faites ça, alors vous aurez la force de vous emparer du pays. La promesse que je vous ai faite par rapport au pays, elle sera effectivement réalisée quand vous aurez la force que vous puiserez de cette parole. Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes conscients que la parole de Dieu, elle a cette puissance? Parfois, on connaît des promesses, on les connaît par cœur, on les répète, on les chante même, et on a raison. Mais c'est pas ça qui suffit. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que cette parole puisse nous donner la force de nous emparer des promesses. Vous savez qu'il y a toutes sortes de promesses. J'en ai fait une petite liste. Vous me permettez que je la lise? Quelques promesses qui nous font du bien par rapport à la force de Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu. Je prie le Seigneur afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. On pourrait continuer toute la fin du culte à lire des promesses. Et c'est des choses magnifiques. Mais nous allons effectivement recevoir de Dieu la force si nous nous appliquons à remplir les conditions que Dieu nous donne au travers de ces versets. Mais c'est sa parole qui nous communique tout cela. Et nous voulons être de ceux qui pratiquent sa parole. Je n'insiste pas plus, c'est ce qu'on vient de décrire juste avant. Dans Luc chapitre 8, verset 46, Jésus parle de la fin des temps. Jésus explique tout ce qui va se passer, les signes de la fin des temps. Quand on étudie ça en détail, on se rend compte que sur tous les signes que le Seigneur nous a donnés, il y en a 95% qui sont déjà accomplis. Il en reste vraiment pas beaucoup à accomplir. On se rend compte qu'on n'est pas loin de la fin des temps. Mais Jésus dit cette parole, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Veillez et priez. La prière qui ne se contente pas d'être juste une prière religieuse, une prière coutumière, mais une prière qui est continuelle. Un état d'esprit de prière. Ça veut dire quand le matin je me lève et que j'ai du temps, je prie le Seigneur, je présente la journée. Le soir quand je me couche, je prie le Seigneur, je le remercie pour ce qu'il m'a permis de faire et je le prie pour les sujets de prière que j'ai pu relever dans la journée. Ça veut dire aussi quand je suis au travail, quand je suis dans le bus, quand je suis dans la voiture, peu importe l'endroit, mon cœur est dans un état d'esprit de prière. Je suis connecté au ciel. Bien sûr que ça veut dire qu'il faut quand même être attentif quand on est dans la voiture. Faut pas fermer les yeux pendant qu'on prie. On a le droit. Parce que c'est la sagesse qui nous le demande. Mais je veille et je prie. Et c'est ça qui me donne la force d'échapper. Si, frères et sœurs, vous ne veillez pas et vous ne priez pas, Jésus nous dit très clairement qu'on n'aura pas la force d'échapper à tout ce qui se passe. Le monde qui est en train de s'enfoncer dans la corruption. C'est tellement flagrant, il n'y a pas besoin de faire un discours. Mais si on ne veille pas et on ne prie pas, alors c'est le monde qui prend du terrain sur nous et qui décide à notre place. Mais si je veille et je prie, alors c'est le Seigneur qui me donne la force d'échapper à toutes ces choses. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, vous voyez que même la Bible parle de ces situations, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne rompt pas facilement. On prend souvent ce verset pour les mariages, et c'est une belle image qui est là. Le mari, la femme, et puis le Seigneur qui vient enrouler tout cela pour permettre que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Mais c'est vrai que si une personne est plus forte que nous, quand on est deux, l'équilibre des forces est remis en question. Quand on est trois, quand on est dix face à une personne qui est plus forte que nous, mais ça change tout. Quelle est l'image qui est donnée là? C'est l'image de l'Église. Vous voulez être fort avec le Seigneur? Alors vous serez jamais fort tout seul. Vous voulez gagner en force et en maturité? Alors veillez à votre relation avec vos frères et vos sœurs. Ça, c'est le secret de la force en Jésus-Christ. À un moment donné, il y avait le Josué qui était dans la vallée en train de combattre avec le peuple contre Amalek, le peuple d'Amalek. Et Moïse, lui, il est en train de prier sur la montagne. Vous connaissez cette histoire avec cette image qui est là d'un Moïse qui lève les mains. Et toutes les fois où Moïse avait les mains levées, alors Josué, il avait la victoire dans la vallée. Et puis toutes les fois où Moïse était fatigué, restait une heure en levant les mains comme ça, vous allez voir combien c'est difficile. Et quand il baissait les mains, eh ben Amalek qui avait la victoire sur Josué. Alors Moïse s'est rendu compte que tout seul, il n'arriverait pas. Tout seul, ça allait être trop difficile. C'est l'image pour chacun d'entre nous que si nous essayons de combattre, ça ne marchera pas si nous restons tout seuls. Mais avec les frères et les sœurs, ça marche. À ce moment-là, Aaron s'est mis d'un côté, Hur s'est mis de l'autre côté, et ils ont aidé Moïse à garder les bras en haut. Et le résultat, c'est qu'il y a une victoire magnifique du peuple d'Israël. Combien c'est bon quand on a notre frère, notre sœur qui est à côté de nous et qui voit qu'on n'arrive plus à lever les mains ou que nous-mêmes, on lui demande, tu vois, je voudrais prier, mais j'ai pas la force, je suis pas assez costaud pour cette situation. J'ai besoin que tu viennes me soutenir. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place ces maisons de prière, ces réunions dans les maisons, où ça nous permet d'être encore plus précis et spécifiques dans nos prières pour les uns et pour les autres, afin que nous soyons à l'image de Moïse, de Aaron et d'Hur, des gens qui se soutiennent dans toutes les situations pour que la victoire et la force de Dieu nous soient communiquées. La conclusion, elle est simple. Soumettons-nous à ce que le Seigneur nous demande.